Ce matin, je ne ferai qu'une lecture, celle de l'Évangile du jour, dans Luc, au chapitre 16, les versets 1 à 13. Jésus dit encore à ses disciples, « Un grand propriétaire avait un gérant. On vint lui dénoncer sa conduite car il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. » Le gérant se dit, « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ? Travailler comme ouvrier agricole, je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier, j'en aurai trop honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour que les gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. » Là-dessus, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 40 hectolitres d'huile d'olive, » lui répond celui-ci. « Voici ta reconnaissance de dette, » lui dit le gérant. « Assieds-toi là, dépêche-toi et inscris 20 hectolitres. » Ensuite, il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » 500 sacs de blé. « Prends ta reconnaissance de dette, » reprend le gérant, « et inscris-en 400. » Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Un texte de rentrée sur l'argent, sur les richesses. Bam! Nous sommes gâtés, hein. Bonne rentrée à tous. Enfin, c'est pas moi qui établis les listes de lecture en même temps, hein. Je prends ce qui vient. Donc je vous souhaite quand même une bonne rentrée, qui que vous soyez, malgré des textes pareils. Alors vous vous souvenez peut-être, juste avant le confinement, la banque Lloyd avait sorti une campagne de publicité dont le slogan c'était « The M Word ». M, bien sûr, pour money. Et toute la campagne visait à démontrer, et ça, quelque chose, elle mettait le doigt sur quelque chose qui semble être vrai pour toutes nos cultures, c'est qu'on n'aime pas parler d'argent. On interrogeait comme ça des couples, des familles, on leur posait des questions sur l'argent, et à chaque fois, ça bloquait, et c'était justement l'argument de M word, nous, on aime parler d'argent. It's good to talk about money. C'était le slogan. The M word. D'ailleurs, on n'ose même pas dire le mot en entier comme si c'était un gros mot. Et c'est un sujet qui fâche, en général. Un sujet qui fâche, qu'on n'aborde pas en général autour des repas, par exemple. On essaye d'éviter, comme les trois autres sujets qui fâchent, la religion, le sexe et la politique. En général, on botte en touche dès que le sujet arrive et qu'on est à table. C'est comme ça, hein, on ne veut pas que l'argent vienne semer le trouble entre nous. Et c'est peut-être pour ça que certains passages, comme celui que nous venons d'entendre ce matin, ont parfois été lus avec des lunettes moralisatrices. C'est vrai que chez Luc, il y a plusieurs textes qui dénoncent la cupidité ou la conséquence des possessions pour le sort des hommes. On a la parabole du riche, déraisonnable, qui met de côté toutes ses richesses pour pouvoir faire la fête et manger, boire avec ses amis, mais qui meurt avant tout ça. On a le fils prodigue qui dépense tout l'argent de son père avec des prostituées. On a la parabole du riche qui n'est pas capable de voir Lazare devant sa porte. Et puis une autre parabole de ce dimanche qui évoque ce fameux mammon. En somme, l'argent serait le mal, nos richesses nous empêcheraient à coup sûr d'accéder à Dieu et à son royaume. Et c'est vrai qu'à première lecture de ces passages, on voit venir de loin cette morale anti-argent dont l'Église s'est servie pour dépouiller ses fidèles pendant des siècles, allègrement. Et avec le recul, maintenant, évidemment, on sait que c'est trop facile, que cette morale basique n'est pas à la hauteur de la pensée de Jésus. D'ailleurs, Jésus, si vous le remarquez bien, n'est pas complexé, lui, avec l'argent. Il en parle facilement, il en parle facilement et de manière très librement, très décontractée. Il invite même des collecteurs d'impôts à l'écouter et à le suivre, alors que, vous savez, les collecteurs d'impôts, à cette époque-là, dans cette région du monde, étaient très, très méprisés et très mal vus. Alors peut-être qu'il ne faut pas avoir peur de plonger, d'aller au plus proche du texte de Luc. Et c'est ce que je vous propose de faire ce matin, d'écouter d'un peu plus près l'intention de Jésus dans cette parabole du gérant habile. Ou malhonnête, selon la manière dont on le comprend. En commençant par la situation initiale de notre passage, elle est simple, il y avait un homme riche à qui on rapporte que son gérant gaspille ses biens. Là, le mot grec utilisé pour parler de ce gérant, c'est le mot « oikonomos ». D'ailleurs, il y a certaines versions qui utilisent le mot « économe ». Oikonomos, c'est « oikos », la maison en dur, hein, le ménage, et nomos, la loi, la règle. Oikonomos, c'est la gestion ou le fait de garder l'ordre de la maison, et c'est donc ce qui a donné notre mot économie en français. L'homme riche demande des comptes à son gérant et lui donne un avertissement, s'il continue, il ne pourra plus travailler avec lui. Le gérant se pose alors la question, et c'est l'élément perturbateur de notre texte, le sens même de ce que Jésus veut nous faire entendre. Comment survivre ? Je la reposerai peut-être même plus simplement. Comment vivre ? De quoi ? Le gérant y répond tout de suite, il ne peut pas travailler en labourant les champs, il n'en a pas la force, il ne peut pas mendier parce qu'il s'en sentirait trop honteux. Alors, il va survivre en s'assurant l'accueil chez les gens. C'est sa survie, c'est sa manière de répondre à... au moment, c'est être accueilli par l'autre. Ensuite, Jésus continue son histoire de manière un peu étonnante, parce qu'on s'attendrait justement à ce que le gérant, dont le futur, au début de l'histoire, nous semble quand même incertain, redresse la barre, il ferait attention, il garderait le droit chemin après l'avertissement de son maître, peut-être même qu'il chercherait à améliorer les comptes pour se racheter, en quelque sorte. Mais non, il s'enfonce dans l'escroquerie. Il fait venir un à un les débiteurs de son maître et les laisse repartir avec une facture faussement allégée et il fraude en fait les reçus en leur faveur. Quant à la conclusion de cette parabole, alors là elle arrive contre toute attente. Le maître voit ce qu'a fait son comptable, son gérant, et il l'en félicite. Et là on tombe des nues. Les bras nous en tombent, enfin il me semble, quand on lit ça, en tout cas pour une première fois. Le maître vient de menacer son employé de son employé de le virer et il le félicite d'avoir été frauduleux. Dans ce monde, qui félicite son employé de lui faire perdre de l'argent ? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui nous vient de la bouche de Jésus et qui en gros fait l'apologie de l'escroquerie ? Ce n'est pas logique. Il y a quelque chose là qui n'est pas logique. Ce texte a beau être écrit il y a près de 2000 ans, il en va de même pour les auditeurs à l'époque que pour nous aujourd'hui. Cette fin de l'histoire va contre toute logique. Contre toute logique humaine, en tout cas. Et pourtant, le gérant est qualifié par son maître de « phronimos », en grec, qui est un mot grec qui veut dire donc intelligent. Il a bien joué. Intelligent au sens d'avoir fait usage de son bon sens et de son jugement dans ses actions, d'où la traduction aussi de habile. On sent qu'il y a une action là derrière. Et c'est un sujet dont parlent beaucoup les philosophes grecs. D'ailleurs, on a Aristote qui fait bien la différence entre la sagesse, Sophia, soit le discernement de la réalité scientifique, logique, et phronesis, qui est le fait d'avoir du bon jugement dans ses actions, d'agir de la bonne manière, d'agir avec éthique, de vivre avec éthique, on pourrait dire. Et on peut s'imaginer que c'est un sujet que reconnaîtraient tous les auditeurs de Luc, surtout ceux qui viennent du monde grec. Vous savez que Luc écrit dans les années 80, entre 80 et 85, et dans le monde gréco-romain de la toute première église. C'est la toute première génération de chrétiens qui se lève là. Il adresse son évangile, le livre des Actes des Apôtres, à la toute première assemblée de chrétiens. La question posée par ces premiers chrétiens sont souvent d'ordre éthique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment doit agir le nouveau converti chrétien? Quel est le phronesis? Quelle est la bonne façon de vivre et d'agir que je dois adopter en tant que suiveur du Christ, en tant que nouveau disciple? Alors, comme pour leur donner des pistes, le Jésus de Luc conclut sa parabole avec une série de machal, on dit en hébreu, de phrases, comme vous avez souvent sur les feuilles, là, un petit peu des proverbes. Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles manqueront. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ça continue. Et c'est l'une des particularités de Luc qui construit souvent ses écrits avec un jeu narratif d'opposition, de symétrie peut-être aussi, quand ce n'est pas des oppositions. Dans ces paroles de Jésus, on sent bien qu'il nous montre effectivement une tension entre les petites choses et les grandes, les richesses et les biens véritables, ce qui est à vous, ce qui est à l'autre, etc. C'est tout le texte qui fait ce jeu d'opposition. Et la clé de lecture du passage, alors, c'est peut-être dans l'opposition entre richesse et fidélité, lorsque Jésus nous dit d'être fidèle dans les richesses injustes. Le mot qui est utilisé pour dire richesse, là, c'est mammon. Mammon, c'est un mot, voilà, dans le milieu chrétien, qu'on connaît un peu, il est connoté en général négativement, puisqu'il parle de l'argent, mais qui a été transformé en idole. Mammon, c'est l'argent qu'on adore, hein, celui pour lequel on vit. Et justement, le mot que Jésus met en opposition à ce mammon qu'on adore, c'est pistis, c'est-à-dire la fidélité, la foi, la relation vivante et solide entre deux personnes, ou entre une personne et son Dieu. Jésus met en opposition la richesse qui nous paraît durable, stable, sur laquelle on peut poser notre confiance, contre ce qui est véritablement durable, solide, souhaitable, la fidélité, la confiance, la foi. Jésus nous dit de nous faire des amis avec les richesses injustes, c'est-à-dire avec les personnes qui, comme le gérant habile de l'histoire, ont agi avec injustice envers la richesse, c'est-à-dire qu'ils voient plus loin que la richesse elle-même, n'en faisant plus qu'un moyen, et en le gardant comme un moyen. Le gérant voit que sa vie, sa survie, va dépendre non de l'argent, pas plus que de sa force physique ou mentale, mais elle va dépendre des autres. Il voit que la véritable richesse est dans la relation qu'il entretient avec les autres, et là il va faire le premier pas dans un geste de don. Le gérant est habile parce que ce qui a compté, ce n'est pas que le compte soit bon, mais que sa relation avec le débiteur soit entretenue. Voilà où Jésus nous dit de nous investir dans les richesses véritables que sont nos relations aux autres ou au tout autre. Voilà un investissement judicieux, une richesse qui fait sens, qui va réellement prospérer, qui va faire fructifier non seulement nos vies, mais le royaume de Dieu. C'est là une des perles de ce troisième évangile, c'est le style littéraire de Luc lui-même, qui nous raconte l'opposition entre ce que ce monde comprend des richesses et ce que le royaume en dit. Entre notre logique, celle qui veut que nous soyons le plus fort, le meilleur, le plus riche, et la logique de celui qui est venu tout renverser, qui est venu nous chambouler, qui est venu renverser cet ordre humain. Cette histoire, cette parabole nous paraît insensée à première lecture, mais la bonne nouvelle n'a pas de logique. Paul le dit bien dans sa première épître aux Corinthiens, quel scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, hein, quel Dieu naît dans une étable? Quel Messie va se laisser mourir en silence comme un voleur, comme un vulgaire voleur? C'est illogique. Encore une fois, il y a quelque chose là qui ne tourne pas rond. Il y a chez Luc, en fait, cette joie d'annoncer une bonne nouvelle qui va à contresens de notre logique humaine. La bonne nouvelle, elle est peut-être aussi là. C'est la libération de notre ordre des choses. La bonne nouvelle, elle est peut-être là, et c'est une invitation à un nouvel ordre. Car dans le royaume de Dieu, je n'ai pas besoin d'être le premier, ou le plus grand, ou le plus riche. Avoir le cœur ouvert suffit. Jésus, en tout cas le Jésus de Luc, nous confronte à des personnages douteux et plus ou moins appréciables au premier abord. Le fils prodigue qui gaspille l'argent de son père, une pauvre veuve, une pécheresse qui vient oindre les pieds de Jésus avec ses cheveux, un pauvre couvert d'ulcères que les chiens même viennent lécher. Car pour le Jésus selon Luc, la morale n'a aucune valeur en soi. Seul notre cheminement avec d'autres, avec Dieu, notre confiance, notre investissement dans ces relations-là ont une véritable valeur. L'argent est une réalité de notre monde, hein. Jésus ne nous dit pas de le fuir, de le laisser, ne nous met pas en garde du tout contre ça, il cherche juste à le remettre à sa place. Ou plutôt à remettre en place notre attention dans la manière dont nous considérons l'argent, à remettre en place notre préoccupation pour l'argent, hein, déplacer cette attention vers les richesses véritables que sont nos relations. On est tellement préoccupé par le M-word qu'on en a fait tout un tabou, on en a fait un but en soi, et ce but, on l'a mis tellement haut que justement, le sujet est devenu très sensible. C'est pourquoi on n'en parle pas ou on en parle très peu entre nous. C'est pourquoi peut-être qu'en ce temps de rentrée, Jésus nous invite à entendre une invitation pour nous et pour chacun à écouter sa façon de voir le monde et de le comprendre. Il nous invite à voir et adopter une autre économie pour nos vies, une économie où la foi en l'autre, ma relation à l'autre, est bien plus importante que les bons comptes ou que les bonnes notes. Une invitation à investir avec beaucoup plus de finesse, d'intelligence, d'attention, de temps et d'énergie dans les relations plutôt que dans l'argent. À méditer. Amen.